Merci Seigneur pour ta sainte présence au milieu de nous. Merci pour la joie que tu nous donnes de t'adorer, de bénir ton saint nom, d'accomplir notre plus haut ministère. Adorer Dieu. Tu adoreras le Seigneur ton Dieu et tu le serviras lui seul. Oh, nos cœurs t'adorent ce soir.
Alléluia.
Tu es tout pour nous, Seigneur. Oh, alléluia. Tu bénis cette soirée encore. Que tout exalte ton beau nom. Tu illumines à nouveau nos cœurs pour que nous recevions ta parole et que cette parole nous guérisse, Seigneur. Nous avons faim et soif de toi. Alléluia. Merci Seigneur. Ton nom est merveilleux. Ton nom est merveilleux, Seigneur. Ton nom est au milieu de nous. Alléluia. Merci pour la puissance du nom de Jésus. Oh, le nom de Jésus est puissant. Le nom de Jésus est comme un parfum qui se répand. Ton nom est merveilleux. De louer le Seigneur. Alléluia. Que son nom soit glorifié ce soir. Que son cœur de père soit satisfait et qu'il soit rassasié du travail de son âme. Alléluia. Attendez-vous à ce que quelque chose se passe pour vous ce soir. Alléluia. Quand le Seigneur est là, quelque chose peut se passer. Le croyez-vous? Alléluia. Soyez ouverts à sa parole, recevez-la ce soir. Attendez-vous à l'impossible. Le Dieu de l'impossible est près de toi ce soir. Alléluia. Le Dieu de l'impossible est près de toi. Ne regarde pas l'homme, l'homme est limité. Mais regarde au Fils de l'homme. Savez-vous pourquoi nous ne voyons pas assez Dieu agir au milieu de nous? Parce que nous ne nous attendons pas assez à ce que Dieu agisse. Très souvent, notre foi est passive. On ne s'attend pas à ce qu'il agisse.
et comme il est fait selon notre foi, eh bien, il n'agit pas. Pourquoi ? Parce que notre foi n'a pas agi.
Mais ce soir, il veut faire quelque chose et il va le faire. Que son nom soit béni. Les quelques paroles d'exhortation que je voudrais vous adresser se trouvent dans l'Épître aux Galates, au chapitre 4. Et le titre de mon message sera « Les trois signes de maturité spirituelle dans la vie d'un chrétien ». J'aimerais vous donner les trois signes de la maturité spirituelle. Il est bon parfois de savoir où nous en sommes. Parfois nous pensons que nous sommes des géants alors que nous sommes de vrais nains. Et parfois nous pensons que nous sommes des nains et nous sommes des géants. Vous auriez pu dire Alléluia déjà. Il ne faut pas attendre un quart d'heure, une demi-heure pour dire Alléluia. Quels sont donc les trois signes de la maturité d'un chrétien ? Nous allons le voir donc dans l'épître de Paul aux Galates, au chapitre 4 et les 7 premiers versets. Or, aussi longtemps que l'héritier est enfant, notez bien ce mot enfant, nous allons y revenir tout à l'heure, je dis qu'il ne diffère en rien d'un esclave, quoiqu'il soit le maître de tout, mais il est sous des tuteurs et des administrateurs jusqu'au temps marqué par le Père. Nous aussi, de la même manière, lorsque nous étions enfants, nous étions sous l'esclavage des rudiments du monde. Mais lorsque les temps ont été accomplis, Dieu a envoyé son Fils, né d'une femme, né sous la loi, afin qu'il rachetât ceux qui étaient sous la loi, afin que nous reçussions l'adoption. Et parce que vous êtes fils, soulignez bien aussi ce second mot. Et parce que vous êtes fils, Dieu a envoyé dans nos cœurs l'esprit de son Fils, lequel crie « Abba, Père ». Ainsi tu n'es plus esclave, mais fils. Et si tu es fils, tu es aussi héritier par la grâce de Dieu. Amen. Ce passage nous révèle une des maladies qui se trouvait dans l'église de Galatie. Ces chrétiens avaient bien commencé, comme vous le savez, mais malheureusement, ils commençaient à mal finir. Beaucoup commencent bien, mais ils finissent très mal, malheureusement. Et nous allons voir ce que l'apôtre est venu apporter comme correction à cette église qui était en péril dans un certain sens, où l'onction du Saint-Esprit avait quitté beaucoup des enfants de Dieu. Ils avaient commencé par l'Esprit et ils finissaient par la chair. Et l'apôtre, pour illustrer sa pensée, a pris tout simplement le langage naturel et des images naturelles que nous connaissons dans ce monde en parlant d'un enfant et d'un fils. Et par ces deux mots, il essaye de leur montrer leur véritable état. Il leur dit, vous êtes fils, mais vous vivez encore comme des enfants. Beaucoup d'entre nous, nous sommes fils, puisque nous avons reçu l'esprit de son fils. Et nous sommes héritiers de toutes choses. Mais la tragédie, c'est que nous sommes fils et nous vivons comme des enfants. Et c'est ce que l'apôtre voulait corriger. Il voulait leur dire que ce n'est pas normal. Vous êtes fils et vous devez vivre comme des fils. Alors comment discerner
si je suis mûr spirituellement, si je suis un enfant ou si je suis un fils. Alors nous allons faire trois distinctions, et je pense que vous serez tous d'accord avec moi, puisque c'est la nature qui nous enseigne cela. En prenant l'image de l'enfant et du fils, nous allons voir la différence qu'il y a entre l'un et l'autre, et voir si nous sommes vraiment sur le chemin de la maturité spirituelle. Alors, la première différence que nous allons distinguer entre un enfant et un fils, c'est celle-ci. Un enfant a besoin d'être aimé, n'est-ce pas vrai? Mais un fils aime avant d'être aimé. Je reprends cette distinction importante qui va vous révéler si vous êtes vraiment enfant ou si vous êtes fils. Un enfant a besoin d'être aimé. Mais un fils, puisqu'il est parvenu à la maturité, il aime sans attendre d'être aimé. Voilà donc déjà une première distinction importante, et vous pourrez voir où vous en êtes. Beaucoup de chrétiens sont comme ces enfants, ils ont toujours besoin d'être aimés. Si vous ne les chouchoutez pas, c'est très bien d'être chouchouté quand nous sommes un nouveau-né, vous êtes d'accord avec moi? Et encore un petit peu pendant quelques années, c'est tout à fait normal. Un enfant, un nouveau-né a besoin d'être aimé, et c'est là sa nourriture, c'est absolument indispensable. La nourriture d'un enfant, c'est l'amour. C'est l'amour, c'est l'amour. Vous devez littéralement imprégner vos enfants d'amour. Alléluia. Vous devez lui faire des mimis du matin au soir. Alléluia. Des mimis du matin au soir. Vous ne devez jamais vous lasser d'aimer vos enfants. Si vous les privez de cet amour, plus tard, ils ne seront pas capables d'aimer les autres. Ils seront constamment ballottés à gauche et à droite en quête d'amour. Et comme ils ne recevront pas cet amour, ils seront déçus. Et comme les parents n'ont pas fait leur devoir, ce sera la faute des parents si cet enfant est ballotté à gauche et à droite après. D'où la grande responsabilité des parents. Un enfant a besoin d'être aimé, pas seulement corrigé, il faut le corriger, c'est normal, mais être aimé, être aimé, être aimé. Alléluia! Dites à vos enfants que vous les aimez, que vous les aimez, que vous les aimez. Dites-le, ne vous les en lassez jamais, jamais. Et par voie de transition spirituellement, un nouveau-né dans l'Église, la première des choses qu'il a besoin, c'est d'être aimé aussi. Amen. C'est la première des choses, un nouveau-né. Mais malheureusement, il y a certains champions spirituels qui, dès qu'un chrétien, un nouveau-né est dans l'église, alors ça y est, on commence. Viens y voir un petit peu ici, toi. À partir de maintenant, tu dois pas plus faire ceci, tu dois plus faire cela, tu dois plus faire ceci, tu dois plus faire cela. Et à partir de maintenant, tu sais que c'est comme ci, et puis si c'est pas comme ça, et c'est terminé, après c'est tout. Voilà comment on reçoit un nouveau-né. Et on le prive de sa nourriture essentielle. On voudrait que ce nouveau-né soit parfait dès le premier jour. Et ils ont oublié qu'eux, il leur a fallu des années et des années pour abandonner certaines choses, alors qu'ils l'imposent au nouveau-né, du jour au lendemain, tu dois abandonner ça. Et lui, pendant 10 ans, il a ballotté ce fardeau sur lui. Le premier besoin d'un nouveau-né, c'est d'être aimé. Alléluia. Oh, si le nouveau-né dans l'église était reçu comme cela. Oh, mais viens voir un petit peu ici, c'est merveilleux. Tu as donné ton cœur au Seigneur. Alléluia. Oh là 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 là. Mais viens voir un petit peu ici, que je te fasse la bise. Oh là, c'est formidable. Mais c'est le plus grand des miracles. C'est extraordinaire. Viens voir un petit peu ici. Et c'est au travers de notre amour qu'il va réaliser que Dieu l'aime, n'est-ce pas vrai?
C'est au travers de cet amour qu'il va voir l'image de Dieu en nous. Mais s'il ne voit pas cette image-là, il va voir l'image d'un père fouettard. Mais qu'est-ce que c'est que ça ici? J'ai été assez fouetté dans le monde, il faut que je sois fouetté dans l'église maintenant.
Un enfant a besoin d'être aimé, mais un fils aime. Donc pendant un certain temps, c'est normal que cet enfant soit aimé. Mais à partir d'un moment donné, quelque chose doit changer. Nous ne devons plus vivre pour recevoir, mais pour donner. Et le Fils, le véritable état et esprit de Fils, se manifeste lorsqu'on ne vit plus pour recevoir, mais pour donner. Amen.
Jusqu'à 5, 6 ans, 10 ans, ça peut encore aller, enfin, vous voyez, d'être aimé. Mais il y a des bébés de 40 ans, 50 ans. On doit toujours encore les prendre dans les bras, ils sont lourds. Leur donner le biberon aussi de temps en temps.
Oh, on m'a pas dit bonjour aujourd'hui. Il y a le frère là-bas, il m'a fait la tête ce matin. Qu'est-ce qu'il a, il m'aime plus.
Combien de temps vous êtes converti? Oh, ça fait 45 ans.
Comment?
Oh, s'il continue comme ça, je vais perdre ma foi.
Ah bon?
Après 45 ans de conversion, parce que ton frère ne t'a pas dit bonjour, ou il t'a un peu regardé de travers, tu vas perdre ta foi.
Oh, il m'a dit une parole de travers ce matin. Je sais pas, il faut que vraiment je fasse un sujet de prière. J'ai un gros fardeau.
Ah oui?
Mais qu'est-ce qui t'arrive?
Pendant toute ta vie, tu as vécu pour recevoir, recevoir. Ce sont des personnes qui littéralement sucent les autres. Et encore, ce sont ces personnes-là qui disent aux autres, eh ben, elles ne sont pas spirituelles, celles-là. Savez-vous les personnes qui disent constamment, ici, dans cette église, personne ne m'aime, il n'y a pas d'amour dans cette église, et qui rouspètent le plus? Savez-vous que les personnes qui disent cela révèlent précisément leur peu de maturité spirituelle? La personne qui dit, oh, il n'y a pas d'amour par ici, révèle une chose, c'est que cette personne ne vit que pour recevoir, n'est-ce pas vrai? Il ne cherche que de l'amour. Alors que il devrait passer son temps à aimer et à cesser de chercher à recevoir. Il pense révéler sa maturité spirituelle en disant cela, mais en fait, il révèle son enfance spirituelle. Et il y a des chrétiens de 20, 30 ans, 40 ans de conversion qui vivent encore pour eux-mêmes et pour recevoir. Il est temps de changer, n'est-ce pas vrai? Et un fils aime sans attendre d'être aimé. Alléluia! Et laissez-moi vous donner quatre qualités de cet amour extraordinaire qui va vous permettre d'aimer et de communiquer cette vie abondante. Premièrement, la première qualité d'amour, c'est de donner. Vous ne devez plus vivre pour recevoir, mais pour donner. Le matin, levez-vous et dites, à qui est-ce que je vais pouvoir faire du bien ce matin? Qui est-ce que je vais pouvoir aimer? Yalo, tiens, il fait une petite tête de temps en temps. Là. Celui-là, je vais le viser. Et je vais aller le trouver. Alléluia! Oh, tu es une personne merveilleuse, tu sais.
Comment moi?
Moi? On m'a jamais dit ça! On m'a toujours dit le contraire. Ne te casse pas la tête.
Ce matin, t'as une bonne nouvelle. Tu es le formidable.
Oh là là, mais si tu savais.
Et vous passez votre temps à donner. C'est tout simple ce que je vous dis. C'est tout simple.
Mais vous ne serez plus la même personne si vous commencez.
L'amour, le véritable amour, ne vit pas pour recevoir, mais pour donner. Donner, donner et donner.
Alléluia.
Et plus vous donnez, plus vous recevrez. N'est-ce pas merveilleux? Et une deuxième qualité de l'amour, c'est pardonner. Vous ne pouvez pas aimer quelqu'un sans lui pardonner. Vous aurez beaucoup de la peine à aimer quelqu'un si vous ne pardonnez pas cette personne, parce que la personne n'est pas parfaite. Automatiquement, vous aurez à lui pardonner. Si vous cessez de pardonner, vous cesserez d'aimer. Avez-vous bien compris? Le chemin de l'amour passe par le pardon. Écoutez cette parole merveilleuse de Jésus sur la croix. Père, pardonne-leur, car ils ne savent ce qu'ils font. C'était le cri d'amour de notre Dieu. C'était l'amour qui criait, pardonne-leur,
Pardonne à tous ses ennemis, ils ne savent ce qu'ils font. Quelle puissance dans ce cri! Pourquoi l'amour était-il puissant? Parce qu'il pardonnait. Alléluia! Plus vous pardonnerez, plus vous aimerez. Écoutez-moi bien. Si vous avez de la peine à aimer, c'est que vous avez de la peine à pardonner. Pardonnez à cette personne et l'amour va couler de votre sein. Alléluia! Ne l'oubliez jamais, ne l'oubliez jamais cela. Et troisièmement, un verbe extraordinaire qui va très bien avec l'amour, c'est le sacrifice. Vous ne pouvez pas aimer sans vous sacrifier. L'amour coûte quelque chose. L'amour coûte quelque chose. Et si cela ne vous coûte rien, ce n'est pas le véritable amour. L'amour qui coûte le plus cher, c'est celui qu'on offre gratuitement. Alléluia. Et vous, avez-vous entendu parler de la maréchale Booth au début du siècle lorsqu'elle est venue en France? Et alors on lui a demandé comment ça se faisait qu'elle attirait des foules à Paris et là où elle allait. Des foules venaient écouter cette dame. Et alors on lui a dit, mais comment, quel est le secret de votre puissance? Elle a dit, j'aime les Français. J'aime les Français, et pourtant c'est une Anglaise. J'aime les Français, j'aime les Français. Oui, d'accord, vous les aimez, d'accord, oui, mais comment est-ce que vous les aimez? Alors elle a dit, premièrement sacrifice, deuxièmement sacrifice, troisièmement sacrifice. Il n'y avait pas d'amour possible sans sacrifice. Le sacrifice est la respiration de l'amour. Vous auriez pu dire alléluia là. Amen. Je répète, le sacrifice est la respiration de l'amour. Si vous dites que vous aimez quelqu'un et que vous ne le montrez pas et que cela ne vous coûte rien, ce n'est pas de l'amour, c'est que des belles paroles. C'est que de belles paroles. Oh, tu sais comme je t'aime. Et puis quand il faut faire un effort, quand il y a un sacrifice, quand il y a un renoncement, quand il y a un prix à payer, quand il y a des larmes à verser, quand il y a ouvrir son porte-monnaie, il n'y a plus personne devant, monsieur, devant moi. Dieu te bénisse. Aimer, c'est se sacrifier. N'est-ce pas extraordinaire, cela? Alléluia. Et pour terminer, l'amour se manifeste par une quatrième attitude, c'est la décision. J'insiste là-dessus maintenant. L'amour se manifeste par une décision de la volonté. L'amour n'est pas avant tout un sentiment émotionnel. Dans l'amour, il y a l'émotion, vous êtes d'accord avec moi? Autrement, ce sera un amour froid. Non, la Bible ne nous révèle pas cela. Mais l'amour n'est pas avant tout un sentiment ou une émotion. L'amour est avant tout une décision de la volonté. Jésus a dit, dans Jean chapitre 13, verset 34, il a dit, « Je vous donne un commandement nouveau, aimez-vous les uns les autres. » Nous en avons bien entendu parler de cela, n'est-ce pas? Mais que dit Jésus exactement? Il ne dit pas, « Quand vous sentirez de l'amour pour l'un ou pour l'autre, vous vous aimerez. Et quand vous ne sentez pas cet amour, ne soyez pas hypocrite, n'aimez pas. » Parce que combien de personnes... Oh, mais frère, sœur, moi je ne veux pas être hypocrite. Comme je n'ai pas des sentiments d'amour à ton égard, moi je t'aime pas. C'est tout. Mais je suis sincère, tu sais. Oh là là, mais je suis sincère. Et je ne veux pas être hypocrite, tu sais. Alors je te boude, je te fais la tête, c'est tout. Moi je suis sincère. Si le Seigneur devait attendre des sentiments d'amour pour qu'on s'aime, je crois qu'il pourrait attendre longtemps. Mais Jésus a été au-delà de tout cela et il n'a pas dit sentiment ou pas sentiment, autrement dit, ou alors il a dit sentiment ou pas sentiment, je vous donne un commandement. C'est un ordre. Et l'ordre fait appel à la volonté. Et il vous dit, aimez-vous les uns les autres. Il n'est pas dit, oui, mais je sens rien. Il n'y a pas de sentir rien. Oh oui, mais moi, j'ai pas envie. Il n'y a pas de pas envie. Tu dois aimer, un point, c'est tout. Par un acte de la volonté. Amen. Si bien que lorsque la volonté est en action, vous pouvez aimer quelqu'un du matin au soir et du 1er janvier au 31 décembre. Amen. Il n'y a plus une question de sentiment, c'est une question de volonté. Ne dites plus, oh, je ne sens plus rien, oh, je n'ai plus d'amour pour
Combien disent aussi, oh, mais j'aime plus mon mari. Et d'autres, j'aime plus ma femme, c'est fini, j'aime plus. J'ai plus cet amour, mais qu'est-ce que c'est que ça? Alors ton amour vient et s'en va comme ça, qu'est-ce que c'est que cet amour? C'est un amour, ça vient, ça part, ça vient, ça part. Mais où est-ce que vous avez vu cet amour-là? Cela révèle une chose, que c'est un amour sentimental, un point c'est tout. Et cet amour sentimental est très limité. Et surtout, ce n'est pas l'amour divin. Si vous n'aimez pas votre mari et votre femme, vous pouvez l'aimer ce soir? Ah oui? Comment il faut faire? Mais je ne sens plus rien. Il n'est pas question de sentir. Tu vas tout simplement aller le trouver ou la trouver. Et par un acte de volonté, tu vas lui dire, chérie, je t'aime. Même si tu sens rien. Même si tu sens rien, avez-vous bien compris? Ah, vous dites, mais alors que je ne vais pas être un hypocrite? Mais non, tu ne seras pas un hypocrite. Tu vas tout simplement être obéissant à la parole du Seigneur. Amen. Tu ne seras pas un hypocrite parce que tes sentiments changent, n'est-ce pas vrai? Nos sentiments changent. Et comme je le dis bien souvent, le sentiment toujours. Si nous vivons de sentiments, le sentiment toujours. Un jour vous êtes en haut avec les sentiments, un jour vous êtes en bas. Quelqu'un qui vit de sentiments, c'est un esclave, c'est terrible. Et beaucoup, beaucoup ont perdu des années dans leur vie chrétienne. Beaucoup ont même gâché leur vie dans le ménage, uniquement parce qu'ils étaient esclaves de leurs sentiments. Il y a beaucoup de frères et de sœurs que je n'arrivais pas à aimer, mais lorsque j'ai compris que ce n'est pas une question de sentiment ou pas de sentiment, Sam, je me donne des ordres aussi. Vous savez, il y en a qui sont champions pour donner des ordres aux autres. Il faut commencer un peu à vous donner des ordres aussi. Et je me dis, Sam, allez maintenant, il n'y a pas d'histoire. Viens voir un petit peu ici. Oui, parce que l'autre, il était parti. Le vrai Sam, il était parti. Il boudait un petit peu. Je lui dis, viens voir un petit peu ici. Ah, tu ne peux pas aimer celui-là? Viens voir un peu ici. Et tu dois lui dire maintenant, au nom de Jésus, je t'aime. Aimez-vous les uns les autres. C'est un acte de la volonté. Peu ont compris cela. Nous avons fait de l'amour de l'un quelque chose de très sentimental. Il y a du sentiment, je le dis bien, mais la volonté doit être d'abord en tête. Amen. Et si vous aimez, même si vos sentiments n'y sont pas, continuez d'aimer, continuez de confesser votre amour, et vous allez voir que ces sentiments d'abord négatifs, d'abord qui se rebellent, petit à petit vont prendre le pli et vont s'harmoniser avec votre volonté. Alléluia. Et les sentiments qui disaient d'abord, c'est pas vrai, c'est pas vrai, c'est pas vrai, c'est pas vrai, quand vous, la volonté dira, je t'aime, je t'aime, je t'aime, je t'aime, les sentiments du, je m'en. Continuez, je t'aime au nom de Jésus, j'obéis à la parole de Dieu. Alors après, les sentiments vont commencer à changer, vous comprenez? Ah oui, c'est, oui, tu peux, oui. C'est peut-être vrai, c'est peut-être vrai, c'est peut-être vrai. Alléluia, je t'aime, je t'aime. Ah oui, oh, non seulement c'est vrai, je t'aime au nom de Jésus. Mais les sentiments disent, non seulement c'est vrai, mais quand la volonté dira, alléluia, je t'aime, à un moment donné, les sentiments vont dire, amen, c'est la vérité. C'est formidable quand la volonté dit alléluia et les sentiments disent amen. Vous avez pu dire alléluia là. Amen. Alors il n'y a pas d'excuse, mes chers amis. Je sais que pendant longtemps, moi-même, j'ai été esclave. Et voilà pourquoi nous boudons les uns, nous boudons les autres. Voilà pourquoi nous perdons beaucoup. Aimez-vous les uns les autres. Que cette parole est sage, n'est-ce pas vrai? Il n'y a pas d'excuse. Ne dis jamais, je ne peux pas aimer telle personne. Je ne peux pas aimer mon mari ou ma femme ou mon frère ou ma soeur. Dis plutôt, je ne veux pas l'aimer. Mais si ta volonté est en action, l'amour de Dieu qui est répandu dans ton cœur par le Saint-Esprit se manifestera au travers de toi et n'attend qu'une chose, l'acte de ta volonté. Amen. Cela, c'est une clé extraordinaire pour manifester l'amour 24 heures sur 24. Alléluia! N'est-ce pas extraordinaire? Que le nom du Seigneur soit béni. Allons un petit peu plus loin maintenant. Une deuxième distinction entre un enfant et un fils et qui va nous révéler la maturité que nous avons. Un enfant a besoin d'un responsable. Vous êtes d'accord avec moi là aussi? Un enfant a besoin d'un responsable, ça c'est certain. Mais un fils a une responsabilité.
Un enfant a besoin d'un responsable. Il pense faire beaucoup de belles choses, un enfant, mais si vous n'êtes pas derrière, c'est la catastrophe. Tout ce qu'il fait, il faut le refaire. Mais un fils a une responsabilité. Et c'est là le sens du mot adoption. Pour beaucoup d'entre nous, nous avons mal compris ce que signifie l'esprit d'adoption. Dans notre pensée occidentale, l'adoption veut dire, naturellement, la venue d'un enfant étranger dans une famille, n'est-ce pas vrai ? C'est l'adoption d'un enfant étranger dans une famille. Et par cela, nous disons adoption. Mais dans la pensée orientale, ce n'est pas du tout cela. Quand il est question de recevoir l'esprit d'adoption, ce n'est pas du tout un étranger qui entre dans la maison. C'est l'enfant lui-même qui, à un moment donné, à un certain âge, devient assez mûr pour qu'à partir de ce moment-là, cet enfant ne vive plus pour lui-même, ne s'amuse plus comme avant, mais il commence à rechercher la volonté de son père, à s'intéresser aux affaires de son père. Il est donc entièrement consacré pour accomplir les œuvres de son père. Amen. Voilà pourquoi Jésus, à l'âge de 12 ans, a dit « Ne savez-vous pas que je dois m'occuper des affaires de mon père ?» À l'âge de 12 ans déjà, il manifestait cet esprit d'adoption. C'est qu'il est sorti de cet état d'enfant spirituel à cet état de fils où l'on prend conscience de ses responsabilités. Amen. Et beaucoup de chrétiens n'ont pas encore pris conscience de leurs responsabilités. Il faut toujours les surveiller, n'est-ce pas vrai? Toujours. Tel frère, telle sœur, mais si vous n'êtes pas derrière, c'est la catastrophe. On ne peut rien leur confier. Tout ce qu'ils font est mal fait. Tout ce qu'ils font, il faut le refaire. Mais un fils a une responsabilité. Et nous allons voir maintenant trois distinctions dans le domaine de la responsabilité. Comment un enfant travaille? Qu'est-ce qu'un enfant fait? Alors, trois distinctions qui vont nous aider maintenant à réaliser notre maturité et à prendre nos responsabilités. Premièrement, un enfant commence un travail, et très souvent commence un travail, sans le finir. N'est-ce pas vrai? Un enfant, il est toujours bien disposé. Papa, maman, qu'est-ce que je fasse? Oui, allez, fais ça. Allez, ça y est, enlevé. Hein? Allez, en route. Au bout de 5 minutes, ça y est, au revoir. Où tu es? Ah ben on le voit, il est en train de se promener là-bas, il s'amuser. Mais t'as pas fini ton travail, il faut venir ici. Ah oui, mais qu'est-ce que tu veux? Ça va pas assez vite d'abord ici, ça va pas assez vite. Moi j'ai cru que dans 5 minutes ça pouvait se terminer, mais non, il faut que je m'en aille. Il commence son travail, mais ne le finit pas. Ça c'est un enfant. Combien d'entre nous, on commence quelque chose, on voudrait qu'en 5 minutes tout soit réglé. Certaines personnes, quand Dieu n'exauce pas leur prière à la première prière, plus rien du tout. Plus rien du tout. Quand ils ont demandé quelque chose pour obtenir du Seigneur, quand la réponse n'est pas venue tout de suite, au revoir, messieurs, dames, c'est terminé. Seigneur, ça ne va pas du tout. Non. Il faut que j'aie un entretien avec toi, Seigneur, parce que ça ne va pas du tout. On commence un travail et on ne le finit pas. L'enfant voudrait que ça marche tout de suite, n'est-ce pas vrai? Tout de suite, il faut que ça marche en 5 minutes. Il faut que ce soit fait, autrement ce n'est pas intéressant pour lui. Et combien d'entre nous, il faut que ça marche tout de suite? Hébreux 6, 12 nous dit « Imitez ceux qui par la foi et la persévérance héritent les promesses. » Ça, c'est l'esprit du Fils. Alléluia. L'esprit du Fils, c'est celui qui met la main à la charrue et qui ne regarde pas derrière. Seigneur, tu m'as donné tel travail. Seigneur, tu m'as promis ceci. Seigneur, tu m'as promis cela. C'est dans ta parole et maintenant j'ai la main à la charrue et je vais jusqu'au bout. Amen. Un fils finit son travail. Il va jusqu'au bout. Ne vous faites pas d'illusions. Combien d'entre nous pensons qu'il faut que toujours tout se fasse instantanément?
dû à ces actions instantanées et miraculeuses. Mais la véritable foi, c'est celle qui persévère. Imitez ceux qui, par la foi et la persévérance, héritent les promesses. Avez-vous bien compris cela? Beaucoup pensent, parce qu'ils n'ont pas reçu l'exaucement tout de suite à leur prière, qu'ils n'ont pas de foi. Détrompez-vous, ce n'est pas vrai. La véritable foi, c'est celle qui persévère. Alléluia. Et qui persévère jusqu'au bout. Mais un enfant, lui, ça ne l'intéresse pas. Il faut que ça marche tout de suite. Si ça ne marche pas, on en va tout promener. Combien d'enfants dans les églises, n'est-ce pas vrai? Mais imitez ceux qui, par la foi, la persévérance, héritent les promesses. Alléluia. Une deuxième chose maintenant qui distingue un enfant d'un fils, c'est qu'un enfant, il fait le travail qui lui plaît. N'est-ce pas vrai? Ça encore, c'est une autre distinction. Oui, papa, tout ça tu veux, je veux bien t'aider et tout, mais il choisit son travail. Il fait ce qui lui plaît. Et alors, quand il fait ce qui lui plaît, c'est formidable, il est là, ouh. Enfin, oui, on a l'impression que c'est formidable. Mais quand quelque chose ne lui plaît pas, pas moyen de lui faire quoi que ce soit. Pas moyen. Il fait que ce qui lui plaît, il fait que ce qu'il a envie. Ça, c'est l'état d'un enfant spirituel. Mais un fils, que ça lui plaise ou que ça ne lui plaise pas, il fait son travail. Amen. Ceci est très important. Et vous savez, dans quoi l'apôtre Paul se plaisait? Beaucoup d'entre nous, ces choses nous rebutent. Mais voyons ce en quoi, je lis pour vous maintenant, dans 2 Corinthiens chapitre 12. Regardez ce en quoi Paul se plaisait. 2 Corinthiens 12, verset 10. C'est pourquoi je me plais. Dans quoi? Dans les faiblesses, dans les outrages, dans les calamités, dans les persécutions, dans les détresses pour Christ. Car quand je suis faible, c'est alors que je suis fort. Voilà ce en quoi Paul se plaisait. Je me plais dans les faiblesses, dans les outrages. Quand on vous outrage, qu'est-ce que vous faites? Dans les calamités, dans les persécutions, dans les détresses pour Christ. Dites-moi, est-ce là notre lieu de prédilection? Est-ce que nous nous plaisons dans ces choses? Ça, c'est l'état d'un fils. Il ne se plaît pas seulement quand tout va bien, mais il arrive à se plaire aussi quand tout va mal, par amour pour le Seigneur. Alléluia! Ça, c'est un signe de maturité spirituelle. Je me plais dans les faiblesses, dans les outrages, dans les calamités, dans les persécutions, dans les détresses pour Christ. Quel signe de maturité spirituelle! Et un troisième signe maintenant, qui montre l'enfance spirituelle, c'est qu'un enfant travaille très souvent pour se vanter. Je le vois avec mes enfants. Bien souvent, ils ont du zèle, mais c'est pour montrer aux parents qu'ils font plus que le frère ou la sœur. Et ils viennent vous voir en vous disant, hein, papa, tu vois, regarde, Christine n'a rien fait. Christine a mal balayé. Priscilla a mal fait son travail. Mais moi, regarde comme je l'ai bien fait. Hein, maman? Hein, c'est bien, maman. L'enfant travaille très souvent uniquement pour se vanter. Et il a beaucoup de courage dans ce domaine-là. Quand il peut se vanter et dire à la fin de son travail, « Oh, tu sais, hein, regarde ce que j'ai fait, et l'autre n'a rien fait du tout. » Et ils n'ont aucun reproche dans ce domaine-là. J'espère que plus tard, ils auront quelques reproches dans leur cœur. Mais un enfant travaille pour se vanter. Et que d'enfants aussi dans l'église qui ne travaillent que pour se vanter, n'est-ce pas vrai? Pour se vanter et pour dire, voilà ce que je fais moi et ce que l'autre ne fait pas. L'apôtre Paul disait que celui qui se glorifie dans le Seigneur. Ce n'est pas celui qui se recommande qui est quelqu'un, mais c'est celui que le Seigneur recommande. Alléluia! Ne travaillons pas pour nous vanter. Seul le Seigneur doit être le but de notre travail. Nous recherchons jamais l'approbation des hommes dans notre travail, mais l'approbation de Dieu. Si vous y croyez, dites Alléluia. Si vous ne croyez pas que c'est seulement l'approbation de Dieu qu'il faut, vous allez passer par des drôles d'épreuves, mes chers amis. Par des drôles de problèmes, par des drôles de circonstances. Si vous recherchez le regard approbateur des hommes, vous serez déçu et déçu et déçu. Si vous attendez un merci des hommes, vous serez encore déçu, déçu, déçu et déçu. Mais celui qui est mûr spirituellement ne recherche que l'approbation de son Dieu. Après avoir fait son travail, il se tourne vers son maître et dit, « Est-ce que cela t'a plu ?»« Oui, mon enfant, cela m'a plu. » Amen, c'est terminé. Peu importe ce que les autres disent, ça, c'est le signe d'une maturité spirituelle. Vous ne recherchez pas à ce que les autres disent ou pensent de vous. Ce que Dieu pense de vous est le plus important. Que son nom soit béni. Amen. Je vais être un peu rapide maintenant pour vous donner la troisième distinction entre un enfant et un fils et qui va nous montrer notre maturité spirituelle. Troisièmement, un enfant fuit la souffrance. Un enfant ne supporte pas la souffrance, mais un fils accepte de souffrir pour son Seigneur. Amen. Voilà une belle distinction encore. Un enfant fuit la souffrance. Qui d'entre vous parle de ses souffrances à ses enfants? Je ne vais pas prendre mes enfants et dire, dis donc Priscilla, on a de graves problèmes, tu sais. De très graves problèmes dans la maison, ça ne va plus du tout. Tu sais que les uns nous ont abandonnés, les autres aussi nous ont abandonnés. Je viens de perdre mon travail, tu sais, ma petite fille. Maintenant, les allocations ont baissé aussi. Mais ça ne va plus du tout, tu sais, ma petite fille. Je ne sais vraiment pas ce qu'on va faire. Croyez-vous qu'en parlant comme ça à vos enfants, qu'ils vont supporter cela? Un enfant est incapable de supporter la souffrance. C'est le plus grand mal que vous puissiez lui faire. Un enfant se décourage très facilement. Mais un fils supporte la souffrance, accepte la souffrance. Et c'est ainsi qu'il montre sa maturité spirituelle. Et par souffrance, je n'entends pas souffrance de la maladie. Hein? Ne pensez pas à ça. Cette souffrance-là, Jésus l'a portée pour vous. Alléluia. 1 Pierre 2, 24, dans ses meurtrissures, vous avez été guéri. Ce n'est pas cette souffrance-là qu'il faut porter. Ce n'est pas une autre souffrance aussi. Ceux qui ont une mauvaise langue, ils souffrent pas mal aussi ceux-là. Ce n'est pas de cette souffrance qu'il s'agit. Si vous souffrez comme un malfaiteur, si vous souffrez, comme la Bible dit, comme s'ingérant dans les affaires d'autrui, alors ne vous glorifiez pas de vos souffrances. Plusieurs sont spécialistes pour cela. Et parmi les chrétiens spécialement, pour aller s'ingérer dans les affaires d'autrui. Comment ça va, frère, sœur? Ça va pas dans la maison? Ils essayent de mettre de l'ordre dans la maison des autres et chez eux, c'est la pagaille. C'est la déroute complète et ils veulent mettre de l'ordre chez les autres. Alors ce n'est pas étonnant que vous aurez à souffrir à cause d'une mauvaise langue. Ce n'est pas de cette souffrance qu'il s'agit, mais des souffrances pour le Seigneur, par obéissance pour lui, par amour pour lui, parce que vous voulez lui être fidèle, alors il y aura des souffrances. Et quels sont les fruits de ces souffrances? Il y a plusieurs fruits. J'aimerais vous en donner maintenant rapidement. Le premier fruit de la souffrance, c'est l'obéissance. Hébreux chapitre 5, verset 8, nous connaissons tous ce verset. Jésus a appris l'obéissance par les choses qu'il a souffertes. Bien qu'il fût fils, il nous est dit, il a appris l'obéissance. Voyez-vous que la souffrance n'est pas seulement liée au fait du péché. Jésus n'avait pas péché, vous êtes d'accord avec moi? Et cependant, il a dû souffrir. Alors ne pensez pas que si vous souffrez, c'est spécialement à cause de votre péché, pas du tout. Bien qu'il fût fils, il a appris l'obéissance par les choses qu'il a souffertes. Il y a quelque chose en nous qui a besoin de souffrir pour apprendre à obéir. Il y a quelque chose de divin aussi en cela. Sans qu'il y ait nécessairement un péché, ou une rébellion, ou une désobéissance. C'est pourquoi si nous voulons apprendre à obéir, le chemin de la souffrance est devant nous. Dieu l'a voulu ainsi, mais que c'est beau quand il arrive à trouver un enfant obéissant. Amen. Le péché, c'est la transgression de la loi. Le salut, c'est l'obéissance à la loi. Amen, c'est tout simple. Un deuxième fruit maintenant de la souffrance, c'est la persévérance. Nous avons bien souvent besoin de passer par des afflictions, par des souffrances pour apprendre à persévérer. Romains chapitre 5, verset 3 nous dit ceci: bien plus, nous nous glorifions même des afflictions, sachant que l'affliction produit la persévérance, et la persévérance, la victoire dans l'épreuve. Voyez-vous, un autre fruit de l'affliction, de l'affliction et de la souffrance, c'est la persévérance. Quand les choses ne vont pas comme vous le pensez, par obéissance pour le Seigneur, alors vous vous attachez plus fortement à lui. Puisque vous l'aimez de tout votre cœur, vous ne le laisserez jamais. Et l'affliction produit précisément cette persévérance. Alléluia. Et vous ne le lâchez pas jusqu'à ce que vous soyez victorieux dans l'épreuve. Voulez-vous plus de persévérance? Alors vous avez besoin de plus d'affliction.
Lord, arrêtez.
Un jour, un jeune homme est venu voir un frère ancien, un vieillard, et lui a dit, frère, priez pour que Dieu me donne beaucoup de patience et de persévérance. Priez, s'il vous plaît. Ah oui, alors bien sûr, mets-toi à genoux, mon grand. Alors il se met à genoux et il commence à faire sa prière, notre vénérable vieillard. Et il dit, Seigneur, bénis cet enfant. Et comme il demande la patience et la persévérance, envoie-lui des afflictions, envoie-lui des épreuves, envoie... Quand il a entendu ça, le jeune homme a dit, arrêtez. Je ne vous ai pas demandé de m'envoyer des épreuves, des afflictions. Mais je vous ai demandé de prier pour que j'aie de la patience et de la persévérance. Mais le vieillard a dit, mais c'est l'affliction qui produit la persévérance et la patience.
Ah oui, j'avais pas du tout compris cela.
Alors il est temps que tu le comprennes. Avez-vous besoin de persévérance? Alors l'affliction sera là. Alléluia. Un troisième fruit aussi de la souffrance, c'est que la souffrance est un test. C'est une épreuve. Nous lisons ça dans 1 Pierre chapitre 4, verset 12. Bien-aimés, ne soyez pas surpris comme d'une chose étrange qui vous arrive, de la fournaise qui est au milieu de vous, pour vous éprouver. La souffrance, l'affliction est un test aussi, pour savoir ce qu'il y a véritablement dans vos cœurs. Avez-vous pensé à cela? L'homme ne connaît pas son propre cœur. Nous pensons que nous sommes bien, alors qu'il peut y avoir des choses en nous qui lui sont très désagréables. Et seule la souffrance, la fournaise, l'épreuve met en lumière ce qui lui déplaît en nous. Alléluia. C'est pourquoi la souffrance est un test, mes chers amis. Comment cela se fait-il que deux personnes passant par la même épreuve, l'un est complètement anéanti, déçu et découragé, et abandonne même la foi, tandis que l'autre même personne, dans la même épreuve, sort purifié, vainqueur, louant le Seigneur, et étant beaucoup plus près du Seigneur maintenant qu'avant. Pourquoi? Parce qu'il a pris cette souffrance, non comme une calamité, mais comme un test. Rappelez-vous bien de cela, chaque épreuve est un examen, est un examen. Rappelez-vous bien de cela. Ne dites pas, oh, quelle calamité m'arrive, quelle catastrophe m'arrive. Dites, quel examen le Seigneur veut me faire passer. Vous êtes en train de passer un examen. Voulez-vous le réussir? Si vous voyez vos difficultés comme des tests et des examens, vous allez voir la chose tout à fait différemment. Amen. Et vous allez dire au Seigneur, je veux réussir mon examen. Alléluia. Peu importe ce que les autres diront. Mais moi, je veux passer mon examen avec succès. Que son nom soit béni. Alléluia. La souffrance produit aussi autre chose, la vie chez les autres. Avez-vous bien compris? La souffrance, l'épreuve, la difficulté produit la vie chez les autres. 2 Corinthiens chapitre 4, verset 12. 2 Corinthiens 4, 12. Voici ce qu'il est dit. Ainsi la mort agit en nous et la vie agit en vous. Celui qui réellement apporte la vie aux autres, c'est celui qui est passé par ce chemin de la souffrance, du brisement, de l'épreuve. Et au travers de tout ce brisement, alléluia, la vie peut passer librement et bénir les autres. Si la souffrance n'agit pas en vous, la vie n'agira pas chez les autres. Ainsi la mort agit en nous et la vie agit chez vous. N'est-ce pas extraordinaire cela ? La souffrance est la porte même de la vie et de la bénédiction. Et pour terminer, une autre bénédiction extraordinaire de la souffrance, c'est un poids éternel de gloire. N'est-ce pas formidable aussi ? 2 Corinthiens 4, 18, voici ce que l'apôtre nous dit, verset 17 déjà, « Car nos légères afflictions du moment présent produisent pour nous, au-delà de toute mesure, un poids éternel de gloire. » De gloire, parce que nous regardons non point aux choses visibles, mais à celles qui sont invisibles, car les choses visibles sont passagères, et les choses invisibles sont éternelles. Avez-vous bien entendu ? Car nos légères afflictions du moment présent produisent pour nous, au-delà de toute mesure, un poids éternel de gloire. Ayons aussi cette vision. Nos légères afflictions d'ici-bas produisent dans l'éternité un poids de gloire. Alléluia. Vous serez surpris de la gloire qui vous attend dans le ciel. Laissez-moi vous dire une chose. Vous serez surpris, vous allez dire au Seigneur, mais ce n'est pas possible. Toute cette gloire est pour moi. Mais oui, chaque fois que tu es passé par la tribulation et que Dieu a dit « Alléluia » dans cette tribulation, chaque fois que cette tribulation t'a purifié, chaque fois que tu es resté debout, chaque fois que tu as eu la bonne attitude, alors chaque fois c'était un examen et moi je disais aux anges « Allez encore, une tonne de gloire de plus !» Il a réussi son examen, une tonne de plus, alléluia ! Des tonnes de gloire nous attendent dans le ciel, alléluia ! Je dis « Mais c'est vrai !» Mais oui, vos légères afflictions produisent un poids éternel de gloire. Oh, regardons à cela, les choses passagères passent, mais les choses éternelles demeurent éternellement. Ne nous laissons pas arrêter parce que nous voyons ce que vous voyez, la souffrance, la tribulation va passer, disparaîtra un jour éternellement. Mais si vous avez été fidèles, cette affliction va produire un poids éternel de gloire qui sera votre partage éternellement. Alléluia! N'est-ce pas extraordinaire? Pensons à cela. Lorsque des afflictions surviennent, le poids éternel, le Seigneur sait récompenser les siens. N'est-ce pas merveilleux? Un jour, quelqu'un a dit ceci, lorsque Étienne était lapidé, son serviteur humilié devant les hommes, abaissé devant les hommes, rejeté devant les hommes. Il nous est dit que Étienne vit la gloire de Dieu et Jésus debout. Et quand Étienne a rendu l'âme, Jésus s'est mis debout pour honorer la rentrée de son serviteur dans la gloire. Ceux qui souffrent pour le Seigneur ont un honneur spécial. Jésus se lève et les respecte. Amen. Alléluia. Se lèvera-t-il lorsque tu entreras dans la gloire? Si tu passes par le chemin de la tribulation, alors de grandes choses t'attendent. Fortifie-toi et prends courage. Il y aura un salaire pour ton travail. Que le nom du Seigneur soit béni. Un poids éternel de gloire nous attend. Jésus debout nous tend les bras. Vivons déjà dans cette perspective. Il revient bientôt. Il te récompensera. À lui soit toute la gloire. Courbons-nous dans la prière quelques instants et laissons-nous sonder par le Seigneur. S'il nous a révélé ce soir que nous étions encore des enfants spirituels, qui ne vivons que pour être aimés, des enfants qui ont besoin d'un responsable, des enfants qui fuient la souffrance,
Jésus vous demande d'être des fils ce soir. Il faut croître dans la grâce et la connaissance de Jésus-Christ. Dites, Seigneur, ce soir, je ne veux plus vivre pour être aimé, mais pour aimer. Ce soir, comme un fils, je veux prendre mes responsabilités. Et ce soir, comme un fils, je veux supporter la souffrance. Comme Paul disait à Timothée, souffre avec moi comme un bon soldat de Jésus-Christ. N'aie point honte de l'Évangile, car il nous a été fait la grâce non seulement de croire en lui, mais de souffrir pour lui. Un fils supporte la souffrance. Marchons sur ce chemin. Ainsi donc, vous armez-vous de cette même pensée, Christ ayant souffert pour nous. Nous aussi, nous devons marcher sur ce chemin-là. Seigneur, sonde nos cœurs et nos reins et trouve en nous cet esprit d'obéissance, cet esprit du Fils pour la gloire de ton nom. Merci, Jésus.
Sans larmes, sans lutte, sans peine et sans alarme, où les mots plus jamais nul n'oppresse, là-haut un jour je serai. Alléluia, des chants d'allégresse. Jamais plus de chute, de détresse. Là-haut, près de Dieu, je serai. Un vêtement blanc comme la neige, comme la neige resplendissante. Une couronne d'or éclatante. Là oui, un jour je recevrai. Alléluia, oh, mon âme chante, car j'entends l'hymne des cœurs célestes, bientôt libre des lits terrestre, dans la ville où bientôt je serai.
Oh.
Tout puissant.
chaque instant. Yeah.